Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Les baskets de Michael Jordan vendues aux enchères en octobre dernier ont dépassé le million de dollars. Alors est-ce une trahison aux origines de la mode urbaine ? Eh bien on va en parler, de cette liberté du streetwear. Aujourd'hui on regarde tout simplement la mode, la rue et ses vêtements, sous toutes ses coutures, graphisme, broderie, dans sa coulitude, dans ses grandes largeurs aussi, pour faire du sport ou pour s'imaginer seulement sur un skate, sur un playground de basket, sur le bitume en figure hip-hop. Comment cette créativité, partie de vêtements de sport, partie de vêtements de travail, a gagné la planète des marques hors de prix ? Et comment deux univers, celui des quartiers, celui des banlieues, dialoguent avec le luxe pour des inspirations mutuelles ou parfois des détestations ? On va en discuter avec des experts. Bonjour Tonton Gibbs.
Bonjour.
Youtubeur qu'on ne présente plus, collectionneur passionné de sneakers.
Oui.
Bon, pour les vieux, c'est les baskets. Hein,
voilà. Après.
Vous publiez une véritable encyclopédie qui s'appelle Street Style, la mode urbaine de 1980 à nos jours, chez Larousse, avec des très très belles photos. Vous avez rencontré presque tous ceux et toutes celles. Celles, il y en a moins hein, que ceux.
C'est vrai.
Moins de femmes, on est d'accord. En tout cas, tous ceux et celles qui comptent dans ce monde-là, notamment Uncle Texaco. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes consultant en marketing,
oui.
Vous allez nous raconter aussi vos parcours respectifs dans vos découvertes de cette mode urbaine. On est aussi en ligne avec celle qui regarde les rues des villes du continent africain avec un œil ultra, ultra affûté. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour les garçons.
Bonjour.
Bonjour Babi.
Marie-Jeanne, merci d'être en ligne avec nous, rédactrice en chef, créatrice du magazine Brune. Vous connaissez tous les créateurs du continent et vous nous diront comment ils s'inspirent de la rue et vice-versa. On donnera la parole aussi à des sapeurs au Congo-Brazzaville, une autre origine, une autre parenté de la mode urbaine peut-être. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous si vous êtes en mode street style, assumé. On veut tout savoir sur vos préférences, sur vos styles. Appelez-nous sur le WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, c'est le monde des enfants par Charlie Dupio. Chaque mois, on donne la parole à des enfants avant l'adolescence. C'est là qu'ils ont des choses à dire. Ils nous parlent de leur vie quotidienne, mais aussi de grands sujets de l'humanité. Aujourd'hui, ce sera la peur.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Milliards de voisins, la mode urbaine. Écoutez le message de Mariama, elle a 22 ans, elle est étudiante à Libreville, au Gabon.
Bonjour. Alors pour moi, le streetwear, la mode streetwear, c'est simplement le chic et le décontracté. C'est la mode la plus décontractée qui soit. Il faut se sentir bien lorsqu'on se vêtit. Lorsque je vois une personne qui est chic et décontractée, donc un streetwear pour moi dans la rue, je n'hésite vraiment pas à le complimenter ou à la complimenter avec un petit accessoire, un béret, un sac, un jean oversize, une chemise oversize et une paire de talons, ça fait le tout. On peut aussi remplacer la chemise par un t-shirt oversize avec des émotifs en cartoon, donc des dessins animés, et un jean oversize couleur unique et aussi une paire de tennis. Ça fait l'affaire, tout dépend de comment est-ce que les accessoires sont assemblés. La mode streetwear s'adapte à tous les temps et à tous les lieux. On peut aller facilement en faculté étant étudiante ou à son premier entretien d'emploi, de stage ou d'embauche. Donc c'est tout bénef. Et lorsqu'une personne est bien vêtue, n'hésitez surtout pas à la lui dire. La mode streetwear, c'est pour tous les âges et tous les temps.
Ouais, c'est vite dit, hein, pour tous les âges et pour tous les temps, mais...
Non. Depuis le temps que ça a débuté...
Bah c'est vrai. D'ailleurs, bah
moi, j'approche de la soixantaine.
Vous n'êtes pas tout jeune, tous les deux.
Non.
Tonton Gibbs, ceci dit, je ne sais plus qui raconte ça dans votre livre, que le fait qu'il ait ce look-là, qu'il ait fait ce choix-là, les gens l'arrêtent dans la rue. C'est vous, c'est
oui,
quelqu'un.
Je pense que c'est moi qui dis ça. c'était surtout à une époque où on avait du mal à trouver certaines pièces en France. Et effectivement, on m'arrêtait souvent dans la rue pour me demander où j'avais eu ça. Et voilà, je venais de l'Essonne, du 91, et on avait un ami qui s'appelait Rico là-bas. et qui ramenait vraiment des vêtements des États-Unis, de Philadelphie précisément, parce que c'est là-bas qu'il y a les magasins d'usines aux États-Unis, comme un peu à Troyes en France. Et du coup, on avait un accès à certains vêtements. Donc, c'est pour ça que j'ai cette expérience où les gens m'arrêtaient beaucoup dans la rue à l'époque.
Ouais. Ouais. Et alors, vous l'avez dit, hein, vous venez de l'Essonne. Est-ce que pour les jeunes, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, c'était aussi une façon d'avoir une respectabilité, de déclencher un désir à l'extérieur aussi, d'assumer un nouveau style?
Avant tout, c'est être bien dans sa peau. Et moi, j'étais dans le rap et j'avais un peu envie d'avoir la panoplie du rappeur américain, même si moi, je ne considérais pas ça comme une panoplie. Pour moi, c'était normal.
Et, c'était vous-même, quoi.
Ouais, ouais, c'était moi. Et c'est vrai que j'aimais porter des beaux vêtements qui étaient assez rares à trouver, quoi.
Ouais, alors aujourd'hui, comment vous êtes habillés tous les deux? Pour les auditeurs, on fait de la radio, désolé.
Moi, je suis tout en Ralph Lauren.
D'accord. Et vous touchez chaque fois que vous citez une marque ou pas, non?
Non, 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 je suis tout le temps en Ralph Lauren, ouais, de toute façon. Donc,
ça va être difficile de ne pas citer de marque, hein, pour une émission comme ça.
Ah oui, là, ça va être compliqué.
C'est compliqué.
D'accord. Donc, en tout cas, un sweatshirt blanc
un hoodie,
avec...
un capuche.
Voilà, évidemment, une capuche.
Une casquette qui va, casquette. Même couleur, ouais. Avec un treillis. Ouais. Camouflé et puis, des baskets.
Et puis écrit sport en gros, ouais. Sur un fond bleu électrique.
Voilà.
Ouais. Et vous, tonton Gibbs?
Moi, je suis en Aaron Preston, la casquette, le collier.
Le collier, c'est une chaîne, hein, une
voilà.
Grosse chaîne.
Et puis le crew neck aussi. Et puis j'ai un jean brut cartonné Carhartt. Et puis une paire de Nike React en collaboration avec Undercover de Jun Takahashi, ouais. Au Japon.
Eh bien, on va croiser... C'est du pointu, hein, je vous le dis tout de suite, les voisins et les voisines. On va croiser ça avec Kimberley, qui nous appelle de Tambacounda, dans le centre-sud du Sénégal. Bonjour, Kimberley.
Bonjour, Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Vous avez 18 ans. Alors, vous, qu'est-ce qui vous inspire? Je sais que vous avez 8 paires de baskets.
Oui, exactement.
Ouais.
Ouais, je m'inspire plus des rappeurs du genre Black M, Dadju... J'aime bien le style.
Ouais.
Et dans la rue aussi, je regarde plus les baskets. Genre, j'utilise les baskets qui sont plus à la mode, délaissées par les autres, que je récupère et que je remets à la mode avec mon propre style.
Ah oui. Comment tu transformes les baskets que tu achètes? C'est des baskets très basiques que tu trouves?
Je préfère les sneakers, les Nike, les Jordan. Et j'y mets des fois ma touche personnelle, couleur et tout. Combiné avec mon sweatshirt, un boyfriend, m'habille comme ça.
Et comment tu changes la couleur des baskets?
Ben, je mets des couleurs du genre avec des crayons, des feutres, personnaliser ça en fait.
Custom.
Ouais. Et tu mets aussi parfois une touche africaine ou pas spécialement d'ailleurs, du wax, ça peut être des petites incrustations de tissu ou trop compliqué techniquement?
Ouais, trop compliqué, mais je vois les spécialistes du milieu couture pour ouais. qu'ils mettent des motifs sur le t-shirt avec des couleurs qui vont avec les baskets, ouais. les couleurs que j'ai mises dans les baskets.
Ouais. Et est-ce que tu peux juste nous dire comment tu es habillée aujourd'hui, Kimberley?
Bon, je suis en jogging et en basket et en t-shirt.
D'accord. Et autour de toi, à Tambacounda, comment ça passe? Qu'est-ce qu'on... T'as des réflexions, plutôt des félicitations ou parfois des réflexions moins sympas?
Ouais, des fois, tu t'habilles, tu sors, les gens ils te disent « Ouais, j'aime bien tes baskets et ton t-shirt, comment c'est personnalisé et tout. » Mais d'autres, ils trouvent ce look un peu garçon manqué.
Eh oui.
Peut-être c'est leur avis. Ouais, c'est le garçon manqué et tout, mais bon. Ouais.
T'es pas habillée en vraie fille, quoi, à Tambacounda?
Ouais, moi, je suis plus garçon manqué que m'habiller en fille.
Eh ben voilà, tout est dit en tout cas. Merci Kimberley, très bonne journée à Tambacounda. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, peut-être un petit commentaire. Comment vous percevez aujourd'hui le streetwear dans des villes? Alors là, on a entendu Kimberley qui est pas dans une capitale, hein.
Alors, en fait, c'est très drôle parce que j'ai vécu à Tambacounda où la température frôle les 40-45 degrés quasiment toute l'année. Donc, j'étais en train de me demander comment Kimberley faisait pour avoir tous ses vêtements sur elle. Ça devait être quand même assez difficile parce qu'il fait très chaud. À Abidjan, par exemple, on peut dire que la streetwear a complètement changé les choses au niveau des jeunes, surtout des jeunes garçons. Et quand on se balade dans les rues d'Abidjan, que ce soit à Yorougon, à Trècheville, au Plateau, en fait, les jeunes qui sont dans la rue sont tous, quasiment tous, en sagging. C'est-à-dire ces pantalons qui dévoilent en fait les sous-vêtements, ces pantalons très taille basse, portés très taille basse. Et ils ont tous un t-shirt comme qui appartient certainement à leur petite sœur qui a 10 ans de moins, c'est-à-dire un t-shirt extra slim. Donc c'est ça la mode.
C'est le contraste là, ouais.
Oui, oui, c'est vraiment le contraste. Il faut montrer aussi ses chocolats, donc ses beaux abdominaux, montrer qu'on est slim aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on remarque à Abidjan. Et puis, au pied, de temps en temps, des tennis. Et puis, il faut faire attention aussi au climat. Et puis, très souvent, des tongs. Mais je ne pense pas, alors, à mon sens, que le streetwear a vraiment envahi la capitale ivoirienne. Parce que là, je sors d'une fashion week
qui était très tapis rouge, qui était très glamour, avec des paillettes, de la dentelle, du taffetas et de la soie. On était vraiment à l'antithèse de street style. Et c'est pour ça que je disais que je ne pense vraiment pas que ce style, qui est resté très très populaire, a pu envahir la scène ivoirienne. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les apports des chanteuses de rap qui viennent au départ donc de ce qu'on appelle de l'afro-punk, c'est-à-dire ce mouvement qui fait qu'on des choses très très démesurées comme des perruques vertes, des ongles XXL, des pantalons énormes, qu'on montre beaucoup sa poitrine. Donc ça, effectivement, par contre, on le retrouve davantage chez les jeunes femmes. Avec la grande mode, c'est d'avoir donc par exemple un tissage qui se termine en orange, en rouge, en bleu. On ose des choses comme ça. Par exemple, ce matin, j'étais avec une jeune femme et elle avait des tresses violette, mais vraiment un violet hyper flashy. Donc voilà, donc la mode en fait, moins, mais la beauté certainement.
Et le style. Et la façon de se réinventer aussi dans la rue,
tout
par la rue, d'autant plus si on a des moyens limités pour accéder aux marques, pour accéder aux chaînes de magasins, etc. sur le continent africain. Tonton Gibbs et oui, Uncle Texaco, comment vous réagissez par rapport à la description de Marie-Jeanne tout à l'heure, de jeunes qu'elle croise dans la rue, avec le pantalon hyper large, le petit short emprunté à la petite sœur minuscule, par rapport aux origines, à ce que vous avez connu, à l'évolution de la mode urbaine que vous décrivez dans votre livre?
C'est la mode urbaine, en fait. La mode urbaine, à la base, c'est du détournement de marques, de fringues qui ont un usage particulier qu'on détourne, comme Kimberley, comme les petits jeunes qu'elle nous explique, c'est la même chose. Ils prennent des habits qui ne sont pas faits pour eux, et ils se les réapproprient. Et ça donne le street style.
Tonton Gibbs.
Oui. Non, je suis d'accord avec Tex, c'est la réinterprétation des vêtements et c'est ça qui fait la force du streetwear, de la mode urbaine, c'est que chacun s'approprie les choses. Avant, on a fait une émission où on parlait tous de mode urbaine, on était tous des gens qui étaient dedans, mais on avait tous un style différent, quoi.
Ouais.
Donc c'est la richesse de ça, c'est ça qui est bien.
Qu'est-ce qu'on recherche? Ça touche les jeunes et pas seulement. C'est quoi? C'est le confort, c'est l'originalité, c'est les signes d'appartenance, c'est une revendication ou plus du tout d'ailleurs? Il n'y a plus de revendication.
À la base, c'est on recherche l'originalité et être à l'aise dans ses habits. Et un peu plus tard, c'était l'appartenance parce que quand tu es habillé comme ça, tu es relié à telle ou telle tribu, on va dire. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Donc tout le monde a plus ou moins une pièce streetwear dans son vestiaire aujourd'hui.
Et je pense qu'il ne faut pas oublier quand même. Il faut avouer, il faut admettre qu'il y a ce côté frime un petit peu.
Ah
c'est
oui.
Normal, tu vois. Et justement, je pense que ça vient de la rue. En général, qui dit rue dit quartier populaire, donc qui dit pas forcément beaucoup d'argent.
Ouais. Donc il y a une revanche quand même.
Oui, il y a une revanche, exactement. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai plein de paires de chaussures. C'est parce qu'il y a une époque où je ne pouvais pas me les acheter. Quoi.
Combien?
Ah, j'ose même pas dire ça, c'est peut-être indécent, mais voilà.
Attendez, Kimberley est à Tambacounda, elle en a 7 ou 8.
Voilà, non, mais moi j'en ai plus de 500, quoi. 500 paires et... C'est une revanche. C'est une revanche, ouais, c'est un peu pulsionnel parce que maintenant, moi, c'est mon métier.
Ça. À l'origine de cette mode urbaine, c'est forcément le hip-hop, le rap.
En France, ça a commencé un peu avant le rap. Ça a commencé à la fin des années 70, début des années 80, dans les quartiers toujours. Il n'y avait pas de rap. Donc c'était la funk, on écoutait la funk, le reggae. Moi, c'est ma génération, donc je l'ai vécu. À l'époque, personne ne mettait de vêtements de sport hors terrain de sport. Sauf que nous, on était tout le temps dehors. On a commencé à mettre les vêtements qu'on était censé ne mettre que pour le sport, dehors, pour être plus à l'aise, pour courir quand on avait besoin de courir. Et c'est l'époque aussi où les sportifs les plus mis en avant, c'était les tennismen. qui ont ramené plein de nouvelles marques de sport, un peu de sport luxe italienne, comme Fila, Tacchini, qui coûtaient très très cher à l'époque. Un survêtement Tacchini, ça coûtait 1000 francs à l'époque, donc pour donner une idée, le SMIC était à 3000 balles à l'époque, donc voilà, c'était pas tout le monde pouvait l'avoir. Donc, et d'une, c'était dur à trouver, parce qu'il n'y en avait pas dans tous les magasins, généralement on avait du Adidas ou du Coq Sportif, pour les plus chanceux, ou des survêtements sans marque. Et donc on a commencé à essayer de récupérer des vêtements plus rares.
Ouais. Des vêtements plus rares, le sport quand même qui tient une place d'importance. Alors vous le dites, hein, au départ on a commencé simplement à garder les vêtements du sport pour le reste de la journée, pour se balader dans les quartiers, etc. Mais il y a des sports en particulier qui ont eu une influence déterminante.
Principalement le basket, hein, voilà, c'est vraiment le premier.
Et pourquoi le basket?
Je pense déjà que le basket, ça, on parle aussi surtout, quand je dis basket, je parle NBA. Quoi,
ouais. Mais ça aurait pu être le foot, parce que c'est pas le basket le sport le plus
populaire. Non, mais c'est une question.
C'est pas là qu'il y a le plus d'argent.
Ouais, ouais. Puis c'est une question de coolitude aussi. Ouais. Puis c'est un sport aussi de rue, le basket. Et puis, c'est arrivé par là. C'est-à-dire qu'à une époque où les marques ne sponsorisaient que des sportifs et jamais des rappeurs ou des choses comme ça. C'est passé par la première fois pour les grandes lignes, Run DMC avec la Superstar. Et c'est la première fois qu'il y a eu un contrat autre qu'avec des sportifs. Et tout a changé. Et les marques se sont rendues compte qu'on pouvait gagner de l'argent.
Ça donne quoi, question vêtements, alors, à ce moment-là?
Ça donne qu'à la place d'avoir quelqu'un qui est en Sebago Levi's 501, vous avez quelqu'un qui est en survêtement Adidas avec une paire de Superstar. Voilà, pour grossir le trait, bien sûr, ouais. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter. Mais...
Le vélo, qui devient un sport qui s'impose aujourd'hui, d'abord comme transport doux, hein, mode de transport doux, pas polluant. Il y a une époque où les livreurs à vélo dans le New York des années 90 avaient aussi influencé à leur manière des vêtements comme les leggings, des choses comme ça. Est-ce que c'est une mode de rue qui n'appartient pas au streetwear?
Pour moi, ça appartient au streetwear, parce que déjà, la plupart des livreurs de vêtements à New York, des livreurs à vélo, c'était des mecs du hip-hop qui venaient des quartiers. Donc, de toute façon, ils prenaient le style streetwear et après, ils mettaient des vêtements fonctionnels par rapport à leur métier. Mm. Mais par exemple, le sac des livreurs de New York,
bandoulière.
Le Manhattan Portage, c'est une pièce streetwear. Mm. Enfin, ce fut une pièce streetwear à une époque, c'était vraiment super à la mode. Mm.
Ah oui, pour cause, on le portait en bandoulière parce qu'on était à vélo, hein, et qu'il fallait aller vite parce qu'on était payé à la course, déjà à l'époque. Les femmes dans tout ça? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le livre, hein.
Il y a une petite partie femmes dans le livre, mais c'est vrai que les femmes qui étaient dans cet univers-là, elles s'habillaient un peu comme des garçons aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement de partie, grosse partie femmes, même si à la fin on est très mode et que là on s'ouvre beaucoup plus, parce qu'à l'époque c'était des niches. Là, on est quand même à une époque où c'était plus des styles de garçons manqués quand même.
Ouais. Et pour cause aussi, parce que les marques qui inspirent les passionnés de streetwear, ce sont des marques quand même souvent de travailleurs, des vêtements de travail. Vous citiez la marque Carhartt, Tonton Gibbs. C'est une marque américaine de vêtements de travail qui est née à Détroit il y a super longtemps.
Oui. J'ai envie de dire, à reprendre un truc qu'on a écrit dans le bouquin, c'est que à la base, les gens ils s'habillent aussi par rapport au climat où ils sont. En Californie, à Los Angeles, on va pas s'habiller pareil qu'à New York. Et forcément, il y a des vêtements qui s'y prêtent plus ou moins. Donc, on a tendance à porter une paire de Timberland et une grosse doudoune à capuche à fourrure à New York. Et puis, un shirt Dickies avec une paire de Vans et un débardeur à Long Beach, quoi.
Ouais. Alors, ceci dit, la grosse paire de Timberland avec la grosse doudoune à capuche avec même de la fourrure autour, il me semble que moi, j'ai déjà vu ça à Dakar, hein, l'hiver quand il fait légèrement frais, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Oui, bien sûr. En fait, la mode transgresse les climats et parfois c'est assez étonnant. Mais bon, c'est la mode aussi. C'est-à-dire que les gens aussi ont besoin de marquer leur identité, leur revendication en suivant un mouvement qui vient souvent de l'Occident. Mais il ne faut pas oublier que le départ de la streetwear, street style, c'est aussi en fait la débrouillardise, une certaine pauvreté, parce que surtout sur le continent africain, mais dans d'autres pays, et même en Amérique noire, entre guillemets, la seule façon de s'habiller, c'était d'aller soit dans les fripes, hein,
Et puis, donc, on trouvait des choses qui n'étaient pas forcément à votre taille, pas forcément à votre goût. Mais en les mettant ensemble, en fait, on arrivait, les jeunes arrivaient à créer leur propre look. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas, je pense pas qu'il faille limiter donc, le street style à uniquement au sport. Il faut voir aussi le début de ce style. Et quand on prend l'exemple du jean, qui est aujourd'hui un des vêtements les plus portés au monde, le jean était avant tout un vêtement de travailleur.
Ouais, avec...
Et aujourd'hui, vous avez des jeans qui atteignent des sommets. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est comment finalement, dans une situation de précarité, en fait, on arrive à créer quelque chose, à avoir une véritable créativité.
Ouais.
Et c'est ce qui est intéressant.
Et ceci dit, on en parlait en même temps, tous les jeans, il ne suffirait pas de porter un jean pour avoir un style streetwear. Hein, on est bien d'accord, puisque vous avez cité avec une certaine ironie le jean 501, qui est plutôt l'image des codes de la bourgeoisie. Hein,
oui, mais on détourne aussi les codes de la bourgeoisie, parce que Lacoste, il n'y a pas plus bourgeois français que Lacoste. Et ça a quand même été...
Et il y a bien eu une époque d'ailleurs où Lacoste était très embarrassée de voir que sa marque avait été totalement exportée, réappropriée par les jeunes des banlieues. Ça aussi, on revient de loin. Aujourd'hui, le luxe drague les jeunes et la streetwear, mais ce n'était pas le cas il y a encore 20 ans.
20 ans, c'était même totalement l'inverse.
Et on va en parler, on va parler du racisme finalement dans la mode, ça revient à ça. Allez, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, parlez-nous de vos looks, de vos choix, de street style. Aujourd'hui, on parle de la mode urbaine.
Je suis tombé sur un vieux clip de Grandmaster Flash. Hey, t'as vu Stick et sa dégaine de bas. Là, j'étais scié, son style m'a fusillé. Sapé comme le keuf des YMCA, à base de cuir serré, à l'époque banale. Et des bottes comme celle de Francis Lalanne. Je sais que c'est un classique, mais commentaire. Si c'est ça nos origines vestimentaires. Quoi que, regarde ce qu'on porte dans les clics. En fait, nos sables sont toujours aussi cheap. Les diamants énormes sur les lobes. Les tasbecs ont oublié leur robe. J'suis pas convaincu, mais au moins ça évolue. Un peu plus que les perfectos et leur tête velue. J'me dis qu'avec nos styles ridicules, dans 10 ans on risque de se marrer quand on se reverra avec du recul. Hip-ha. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-ha. Les tasbecs ont oublié leur robe. Hip-ha. Les baskets et les casquettes, hip-ha. J'crois que ça se passe plutôt dans la tête, hip-ha. Les sables extra, extra large, hip-ha. J'ai dit extra, extra large, hip-ha. Les dollars comme seul objectif, hip-ha. C'est juste un esprit positif.
Yo, I got a passionate tongue, not just a habit. It's a b-boy mentality, deeper than any cavity. Way beyond passion on any kind of a salary. A quick elixir mixed with a heavy dose of reality. It's too complicated for the minds outside. The lines drawn when the volume of drums gets over 9. I'm a part of a movement, not meant for the clueless. Use this in your curriculum when teaching the students.
It's not who's it, what's it, who seems to be controlling it. The future of hip-hop and how we unfold it. Travel down the road that every genre must walk down. Hip-hop's up on the legend, yo, it needs to be talked down. The renaissance to an untimely death. The revival of a culture, a survival of a soldier bought by the common people of poverty in need. I'm a voice, it's a who, God let the world see.
Yo, you must be out of your mind if you think the way you dress will serve to help the way you rhyme. Some people put their image first and self is left behind. So when you search within the verse, it's best that you be blind. You're remarkably designed, your equal is hard to find. If you're unsatisfied, take it up with the divine. Cause we don't got the time, and if you go to me, I'll say you're better off just being who you're supposed to be.
Hip-hop, Hocus Pocus, le groupe de rap français qui revient avec humour sur la mode vestimentaire des premiers groupes de hip-hop. Tonton Gibbs est avec nous, youtubeur collectionneur. Street Style, c'est le livre que vous publiez, La mode urbaine de 1980 à nos jours. Oncle Texaco, consultant marketing. Et avec nous également Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune, qui scrutait les tendances dans les villes du continent africain. On donne la parole à des auditeurs. Paul est en ligne avec nous à Abidjan. Bonjour Paul.
Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous les voisins, à toutes les voisines du monde.
Très bien, Paul, bienvenue. Paul, tu as 18 ans, tu es élève en terminale. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu le début de l'émission, mais Marie-Jeanne Serbin-Thomas disait à Abidjan, les jeunes qui s'habillent street style, streetwear, ils ont des pantalons très larges et un t-shirt emprunté à la petite sœur, minuscule, et histoire que, qu'on voit le boxeur, le caleçon qui dépasse du pantalon. Et toi, comment t'es habillée aujourd'hui ?
l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de m'habiller. Mais parlant de moi, je peux dire que je m'inspire un peu du hip-hop américain, notamment de certains artistes américains.
C'est-à-dire...
Voilà, j'adore certains looks comme LL Cool J.
Oui.
Voilà, j'aime sa manière de s'habiller, des bonnets, des jogging et des jeans.
D'accord.
Voilà, mais...
Tu portes un bonnet à Abidjan, même s'il fait très chaud?
Non, quand c'est très chaud, généralement, je porte les bonnets le matin. Voilà, comme le matin, il ne fait pas assez chaud, je porte les bonnets. Et dans l'après-midi, j'enlève. Voilà, là, on adopte les casquettes, voilà, vu le soleil. Voilà, pour essayer de créer un peu un look, quoi.
Oui, oui.
Voilà, et puis quand il y a des... J'ai des sorties entre amis, bien sûr, des sorties de jeunesse.
Oui.
Voilà, j'ai une manière particulière de m'habiller qui n'est pas pareil à voilà, quand on m'invite peut-être à des soirées où il y a plus de responsabilités, des responsables.
Alors, si on a la chance de recevoir Paul dans une soirée, comment tu arrives?
Si on a la chance d'avoir Paul dans une soirée, je viens en jean ou en jogging avec des hauts amples, des habits assez amples. Voilà, puis avec des baskets, des Nike, des Adidas, voilà, des baskets de ce genre. Voilà, peut-être accompagné d'un casquette. Voilà, voilà. Pareil. Voilà.
Et tout à l'heure, on entendait Kimberly qui a 18 ans, qui était à Tumbacounda, qui disait qu'elle, avec des feutres, elle redessinait sur les baskets pour les rendre plus personnelles, plus originales.
Oui, souvent, ben, moi, c'est pas mon genre parce que je ne sais pas comment me procéder pour... Voilà, c'est sa manière à elle, mais moi, généralement, je... Voilà, il y a une astuce pour entretenir bien les baskets. Je ne les lave pas régulièrement. Parce que quand tu laves régulièrement, très souvent, les baskets, ça les dégrade.
Ah.
Donc, je les entretiens bien, je les laisse dans le carton. Quand il y a des occasions comme des soirées, je les sors, je les porte au calme.
Ouais. Est-ce que les spécialistes confirment là qu'il ne faut pas laver les baskets?
Il faut éviter de trop les mouiller, surtout quand c'est du cuir. Mmh.
Voilà.
Savon de Marseille, brosse, c'est très bien.
Savon de Marseille, un savon basique.
Ouais.
D'accord. Ok, bah merci Paul de nous avoir appelé. Merci beaucoup.
Merci à vous et bonne émission.
Voilà.
Merci Paul.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Oksana est à Milan.
Allô.
Bonjour.
Salut Manila, salut tout le monde.
Oui, bonjour Oksana. Tu es à Milan, tu as 21 ans, tu es étudiante, tu es mannequin, tu es d'origine ivoirienne. Et alors, ça donne quoi? Avec tout ce qui constitue ta personnalité, ça donne quoi la mode urbaine pour toi?
Alors, d'abord, je m'habillais très, on peut dire, avec des pantalons serrés. Mais après, j'ai vu que, comme bon, je suis une mannequin, donc je suis toujours au dehors, je dois faire les courses, je vais encore à l'école, tout ça. J'ai commencé à dire, mais bon, on n'a qu'à chercher à changer un peu le style. Donc, c'est là aussi que j'ai commencé à m'habiller en mode plus urbain, on peut dire ça comme ça. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à la fin, on s'habille presque toujours. Dans quelque sorte, on a un peu le style urbain parce que ça peut être un jour, on porte un jean qui est large. Moi, par exemple, je porte les jeans qui sont un peu larges. J'aime beaucoup les chemises. Moi, j'aime beaucoup les chemises, je mets un tricot en bas, je mets mes baskets, je suis au top. Maintenant, ça dépend aussi, il y a des événements, par exemple. Comme je dis toujours, moi, j'aime beaucoup les chemises. Ça peut être que je cherche à mélanger un peu.
Ouais.
Je cherche à mélanger, ça peut être si j'ai un événement, je voulais dire, ça peut être que je mets des talons et je mets une chemise, toujours oversize, mais qui a des dessins un peu particuliers. Genre que ça match, en fait.
Ouais. Mais les chemises, finalement, moi, j'en vois pas beaucoup dans votre livre Street Style.
Ah, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Il y en a.
Il y en a, il y en a.
Ouais, c'est quand même plutôt des vêtements très inspirés du sport.
Il y a des chemises. Après, c'est clair qu'elles ne seront pas rentrées dans le pantalon, par contre.
Voilà.
Elles ne seront pas forcément boutonnées jusqu'en haut.
Mais elles seront plus colorées.
Voilà.
Est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre le large et le serré dans le monde du streetwear?
Non, il y a eu plusieurs tendances. C'est passé de très large à très serré. Après, c'est chacun fait un peu...
Parce que j'allais te poser la question, Oksana, tu es mannequin. Est-ce que tu as aussi besoin de montrer ton corps parfait pour ton métier? Ou est-ce que c'est OK de s'habiller tout le temps très large, très cool?
Bon, moi, par exemple, Je m'habille au fait comme je veux. Je n'ai pas besoin toujours de montrer mon corps parce que à la fin, moi, je préfère être confiante et confortable dans ce que je porte. Et je vois maintenant, c'est un peu à la mode, si on peut dire. On peut dire ça comme ça.
Tu as dit au Standard que les jeunes étaient moins concernés par les vêtements de marque aujourd'hui.
Oui, selon moi, parce qu'avant, ça peut être qu'on ne cherchait plus les marques, genre pour paraître. Mais maintenant, comme j'ai dit, on préfère se sentir confortable à ce qu'on a porté. Donc, ce n'est pas forcément qu'on doit porter un t-shirt de marque. L'essentiel, c'est que ça marche avec ce qu'on a porté.
Merci beaucoup, Oksana, de nous avoir appelés. Très bonne journée à Milan.
Bonne journée à vous aussi.
Merci, Oksana.
Ouais, à Milan, Paris, Londres, c'est le même streetwear?
Non.
C'était vraiment différent avant qu'il y ait Internet. Il y avait vraiment des marques et des styles hyper marqués, même deux villes dans le même pays, en fait, des fois. L'information ne circulait pas de la même manière, donc chacun, avec des spécificités locales, prenait s'appropriait des choses. Maintenant, c'est un peu plus généralisé, mais il y a quand même
Ah oui, en Italie, ils ne s'habillent pas du tout pareil qu'en France. À Londres, ils ont leurs trucs. Et même en France, tu vas à Marseille, ils ne s'habillent pas pareil que les Parisiens. Quoi. Ouais. Toujours cette espèce de microcosme. Après, effectivement, il y en a qui s'intéressent plus à la mode, donc ils vont vouloir chercher des pièces un peu plus pointues à droite à gauche, mais il y a quand même des identités.
Moi, il y a une photo dans votre livre que je trouve fascinante. C'est une photo qui a été prise en 2009 au moment de la Fashion Week à Paris, place de la Bourse, où il y a sur cette photo, alors c'est une brochette de gars hyper, hyper sapés. Il y a Kanye West, qui est le quatrième en partant de la gauche sur la photo. Alors, il porte des attachés-caisse Vuitton, des pantalons en panthère, des doudounes, des lunettes rouges vifs, des chapeaux rouges. Cette photo-là, à l'époque, il n'est pas aussi riche, pas aussi connu, Kanye West, évidemment.
Non, d'ailleurs, cette photo-là, c'est quand il venait de se faire jeter d'un défilé.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que les personnes qu'il y a là, 10 ans après, c'est eux qui contrôlent le monde de la mode.
Ce qui est intéressant avec cette photo, c'est le paradoxe des deux photos qui sont face à face et que c'est ces gens-là, Kanye West, Virgil Abloh, Don C, c'est des gens qui sont au sommet aujourd'hui, à 10 ans d'écart. Enfin, tous les gens qui sont sur cette photo, ils font tous des choses super. Et c'est vrai que là, au premier défilé, ils arrivaient un peu en mode « m'as-tu vu ?» justement pour qu'on les voit. Et au final, ça a marché, quoi, parce qu'ils ont bossé avec Louis Vuitton. Virgil Abloh, c'est un des plus grands aujourd'hui, si ce n'est pas le plus grand à l'heure actuelle. Donc voilà, quoi.
Et on les a vus, on les a bien repérés. Ça m'a fait quand même penser, cette photo, aux sapeurs. Est-ce que les sapeurs, ça pourrait être une autre parenté du streetwear? Je vous propose d'écouter cet extrait de reportage dans les archives de l'émission « On est où là ?», qui était une émission sur RFI, présentée par Vladimir Cagnolari, sur les sapeurs. C'était en 2014. Écoutez.
La SAP s'exprime partout actuellement à Brazzaville.
Je suis un playboy de compétition. À tout moment, je suis dans les alus. Moi, j'ai été initié par un grand prêtre qui est en France. Il s'appelle Mbemba Médard Mimos.
Grand prêtre de la SAP, bien sûr.
Oui, de la SAP. Bon, parce qu'il était plus âgé que moi. Et puis, j'avais ce qu'on appelle l'œil de l'aigle. À tout moment, j'étais à côté de lui. Et puis, je regardais comment il s'habillait. Et puis, j'avais pris le goût, le rythme. Tout Congolais savent s'habiller, c'est inné. C'est selon nos ancêtres. Le Congo, le berceau de la SAP. Le Congo, le patrimoine de la SAP. Quand tu marches, il y a des phases qu'il faut faire. En fait, c'est des gestes. Faire en sorte des virgules. C'est simple de tourner, de faire comme font les militaires. Un peu de gauche, un peu de droite. C'est ça qui fait ta beauté. Voilà. Et puis tu es très bien fureux, surtout si les gens te regardent. Nous appelons ça des allures. Ça, c'est le mot, être allureux. Exemple. Dès que j'arrive, je fais mes premiers pas. Deuxième pas, troisième pas. J'enlève ma veste. Je tourne et je monte ma cravate. Les gens qui me regardent. Qu'est-ce qui se passe? Le sapeur qui est assis, dès qu'il me voit, il est rentré. Et s'il est puissant, il peut finir en faire moi. Il peut faire...
Battre des pieds comme ça?
Ah, il fait des pieds comme ça. Les allures, il vient. C'est comme toi, tu es là, je te piétine ou quoi, je ne sais pas. Au fait, je fais comme un dribble. Tu viens, moi je viens et... Et les gens peuvent apprécier, peuvent crier, on ne sait jamais. C'est la sape. Moi, je dois m'habiller pour la fierté. Je dois être haute parce que je vis. Quand tu as l'argent, tu dois t'habiller. Ça fait la fierté de moi-même. Tu vois, lui, par exemple, il est en Yves Saint-Laurent. Moi, je suis en Marcel Lazance. Louis Léon, Emmanuel Kahn. Il faut savoir lier les griffes. On ne peut pas prendre une griffe japonaise et le lier avec une griffe française. Par exemple, là, en ce net moment, je suis à Alain Figaret. Vous pouvez lire.
Ah, ça, c'est la marque que vous me montrez.
Voilà, Alain Figaret. Ça, c'est M. Bernard. Zins, c'est un français aussi. Donc, en tout cas, je suis valable. Les griffes sont bien alignées.
Aujourd'hui, nous rehaussons le niveau de culture de ce pays-là. Il faut convaincre. C'est ça qu'on a fait. En revenant de la guerre, les routes étaient barrées. Pourquoi tu passes ?
Il fallait convaincre.
Oui, il fallait convaincre. Convaincre comment ? Avant que tu arrives, les gens enlèvent.
Grâce à l'habit.
À l'habit, oui, ils ont peur. Ils tremblent. Il y a des gens qui s'agenouillent devant moi. C'est l'histoire.
Alors, les sapeurs, éventuellement des grands frères de la... du streetwear.
Ils ont, en tout cas en France, ils ont clairement influencé une partie de l'histoire du streetwear en France, notamment avec les pantalons marrêtés François Gerbault, les écharpes Burberry's et les Weston.
Et aujourd'hui, le luxe, est-ce que le luxe peut réussir sans mode urbaine, sans collaboration de stars, de rappeurs ?
C'est difficile parce que ça a complètement changé. Et c'est effectivement, maintenant, tout passe par des collaborations. C'est de la communication, hein. Tout est de la communication maintenant. Sauf quelqu'un qui a déjà un nom, qui est directeur artistique d'une grande maison française. Oui, il va faire une belle collection, on le sait. Mais effectivement, ça passe plus effectivement par les collaborations et tout ça.
Et même parce qu'il y a toujours eu des marques de luxe intégrées au style streetwear. C'est-à-dire Louis Vuitton, Gucci, depuis les années 80, les gens en mettent. Mais par exemple, des marques comme Balenciaga ou Balmain, eux n'ont pas du tout de légitimité dans le monde du streetwear. C'est des marques pour vieilles mamies du 16e à la base. Mais c'est vrai. Et là, aujourd'hui, on voit, ils sortent des baskets, des hoodies, tout ça. Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est que...
Ils n'ont pas le choix.
Bah, s'ils veulent toucher, ils veulent toucher les jeunes.
Oui.
Et les jeunes...
Mais toucher les jeunes, avec des jeunes avec quel pouvoir d'achat ? Parce que c'est quand même pas donné. Ou alors, c'est pour vendre des accessoires, plein d'accessoires qui sont plus abordables. Les lunettes, notamment.
C'est les deux. Déjà, bon, faut pas oublier que le marché asiatique est très, très important. Et puis les jeunes, ils sont prêts aussi à faire beaucoup d'économies pour s'acheter les pièces qu'ils veulent, il ne faut pas l'oublier.
Ouais.
Même avec un petit pouvoir d'achat. Même,
surtout avec un petit pouvoir d'achat.
Surtout avec...
Je vais rebondir juste deux secondes sur Balenciaga. C'est aussi, effectivement, comme tu dis, ils n'avaient pas ce truc-là. Mais justement, en embauchant des gens comme Demna, Gvasalia, justement, ils peuvent aussi rentrer d'une manière légitime dans ça parce qu'ils vont faire des trucs cool, tu vois.
Ouais.
Après, c'est de la provoque, c'est de l'image et tout ça. Là. Mais effectivement, comme tu dis... Il y a une époque, voilà, mais en embauchant telle personne, on peut quand même arriver à faire des trucs.
À se mettre de l'air du temps, oui. Mais après, le grand écart, il est grand. Quoi,
est-ce que quand même le mariage, ce mariage de la streetwear, où chacun faisait un peu son truc dans son coin, quand même, avec un petit jogging, est-ce que ce mariage avec le luxe et donc une montée en gamme hallucinante, ça ne crée pas aussi du ressentiment, de la frustration quand même, non ?
Je pense que oui.
Je pense que oui. Et surtout
bon,
aussi...
Ça va, vous êtes honnête.
Non. Et la grosse différence, c'est qu'auparavant, c'était la rue qui dictait ses choix aux marques. Et aujourd'hui, c'est les marques qui essayent de dicter à la rue qu'est-ce qu'il faut porter.
Et elles y arrivent plutôt bien.
Ouais. Et si la rue n'arrive pas à payer, elle est exclue. Elle est dehors.
Non, pas forcément. Tu peux être stylé avec un t-shirt blanc, un jean 501 et une paire de baskets blanches et ça ne t'aura pas coûté des centaines d'euros.
Voilà. Mais c'est vrai que si tu arrives avec une paire qui coûte 500 euros et un sweat qui coûte 600 euros ou 1000 euros, tu vas arriver justement devant ce mec-là et peut-être avec tout ce qui se passe en ce moment, il va se dire « ouais, je suis peut-être moins stylé que lui, au fond de lui-même peut-être ». Et il aurait tort, mais c'est vrai qu'on a une image aujourd'hui qui est assez dommage en fait, mais c'est comme ça, hein,
c'est l'air du temps.
Faut trouver le juste milieu, voilà.
Ouais, et puis il y en a beaucoup qui en vivent hein, quand même grâce à ça.
Bien entendu, bien sûr.
Aussi.
Bien sûr.
Les tendances de demain en mode urbaine.
Le baggy est là, le baggy est revenu déjà, parce que c'est les jeans slim, il faut plus en porter, faut arrêter. Hein. Voilà, non, là j'exagère, je rigole, mais.
Ouais, il faut revenir aux origines pures,
voilà,
c'est ça.
Faut jamais oublier que tout est une boucle et que tout revient de manière un peu différente. Mais voilà, donc je pense que l'avenir, c'est toujours, on va chercher toujours un peu dans le passé, quoi, finalement.
Ouais. Très bien, le baggy est de retour, c'est bien noté. Merci beaucoup Tonton Gibbs, Texaco, pour tous les passionnés de style, street style, la mode urbaine de 1980 à nos jours. Il y a énormément et énormément de choses à découvrir. Merci beaucoup Marie-Jeanne Serbin-Thomas d'avoir été en ligne avec nous.
Merci Marie-Jeanne.
Vous qui scrutez les tendances du continent africain avec le magazine Brune. Dans quelques instants, comme chaque mois, on donne la parole aux enfants. Ce sera juste après. On a choisi le très influent Travis Scott.
Qui influence, c'est un des plus grands influenceurs au monde, on va dire.
Eh ben c'est parti, escape plan. That shit was a waste, man, but wait, I stopped the facing, cause shit just started racing, but wait, it opened gates, and it should just stop parading, old lady out the basement, on one floor where it's vacant, she feeling anxious to be out where it's dangerous, okay, love how to change it, especially how I bang it, okay, Jamaican Spanglish, she mixed up in the language, hey, back that wipe me draining, just have it if you singing, okay, fuck that Birkin, she just needs some encouragement, that attitude, she thinks she need a surgeon. Okay, I show some gratitude. I put you in that altitude. Okay, it's stuck like madness. Do I put you in that magnitude? Okay, I embrace a pussy. I'm not trying to embarrass you. Okay, I got a lavish crew. Me chase the rocker, day to drew me busy trap. I'm not a rapper. A lot I do, a lot I chew. A film director, helter skelter, off the seltzer like it's juice. Figure state plan, that was the escape plan, but hey, investigating, that shit was a waste, man, but wait, I stopped the facing, cause shit just started racing, but wait, it opened gates, and it should just stop parading, oh, like, we out the basement, on one floor where it's vacant, she feeling anxious to be out where it's dangerous, okay, love how to change it, especially how I bang it, okay, Jamaican Spanglish, she mixed up in the language, hey, babe, niggas dying for that chain around my neck, that's life alert, I be trying not to go back in my ways, I can't revert, we excursion them seven seas, I drop her off at Turks, if it's static, then I'm having 50, drop them off at church, up early rolling up a Benny, she just wanna taste the candy, probably soaking up her panties, nasty when she off the bust a move on Marco Angie, I just went and bought a planet, now that shit was never planted, yeah, 12-figure state plan, that was the escape plan, but hey, investigating, that shit was a waste, man, but wait, I stopped the facing, cause shit just started erasing, but wait, it opened gates, and it should just stop parading, oh, like, we out the basement, on one floor where it's vacant, she feeling anxious to be out where it's dangerous, okay, love how to change it, especially how I bang it, okay, Jamaican Spanglish, she mixed up in the language, hey, babe. Chez 7 milliards de voisins, nous donnons la parole aux enfants. Et il y a beaucoup à découvrir quand ils se racontent au micro de Charlie Dupiot. Ils parlent de leur vie, mais aussi de l'amour, de l'avenir, de l'autorité et aujourd'hui de la peur. Cette semaine, ils sont quatre autour du micro, à Lomé, au Togo. Swadi a 6 ans, Liam, 7 ans, Sefako, 8 ans et Wilfried, 14 ans. Et ils partagent leurs angoisses, petites et grandes.
J'ai peur des cafards. J'ai peur que les araignées tombent sur ma tête, comme si elles allaient tomber du mur, par exemple.
Moi, j'ai peur des araignées. Elles font doucement et attrapent leur proie.
Moi, ma mère, elle a peur des souris.
Et toi ?
Je n'ai peur de rien.
Tout le monde a quelque chose qui lui fait peur,
sauf moi.
Moi, je crois que quelque chose viendra m'attraper.
Qu'est-ce qui viendra t'attraper ?
Des insectes.
Mais un insecte n'est pas quand même plus gros que toi.
Moi, j'ai aussi peur que je fasse une bêtise et qu'on me punisse avec des coups de bâton.
Ça t'est déjà arrivé ?
Oui. Ma mère.
J'ai eu peur aussi quand mon tonton, il était dans la forêt, il nous avait fait une petite blague. On regardait ailleurs et il est parti. J'étais avec mon cousin Thiago.
Et vous avez eu peur de quoi alors ?
Qu'il nous laisse tout seul dans la forêt. Puis après on l'a retrouvé, puis après on a continué notre chemin.
Moi j'ai peur quand on me fait suffoquer.
Suffoquer ?
C'est quoi ?
Quand tu es seul quelque part et quelqu'un vient faire un bruit bizarre à côté de toi. Comme... Hey !
Tu m'as surpris !
Je suis très d'accord parce que ça m'a totalement effrayée.
Moi, je n'aime pas trop être seule en train de dormir. J'ai pas peur, mais j'aime pas.
Et alors, tu dors avec qui?
Ma petite sœur. Quand je ne dors pas la nuit, des fois, je sors dehors pour voir ce qui se passe. Ou comme si le diable venait.
Le diable.
Moi, j'ai eu peur quand ma grand-mère était morte. C'est quand ma mère a crié. Elle a crié en pleurant plutôt.
Est-ce que vous, ça vous a fait peur, ça, la mort, à un moment?
Pas forcément, parce que j'avais que 3 ans quand mon grand-père était mort.
Moi, j'ai peur que l'un de mes cauchemars se réalise un jour. Ce cauchemar, je l'ai fait à 6 ans. C'était que je voyais une tombe. Et à chaque fois que la tombe touchait quelqu'un, l'un des membres de ma famille se transformait en fantôme.
En fait, ça veut dire quoi une tombe?
C'est là où on dépose les gens qui sont morts, puis on les enterre.
Ce qu'on a fait avec ma grand-mère et le chat de ma sœur. Ça me fait pas très peur, la mort.
Comment tu ne peux pas avoir peur de la mort? Si c'était tes parents qui étaient morts, là, tu aurais peur.
Quand on a peur, on a des frissons, on vibre, on n'arrive pas à dormir.
La peur, ça veut dire être effrayé par quelque chose et ne pas savoir quoi faire. J'ai peur de ne pas réussir dans mes études. Je pense que j'ai mal fait ça. Je pense que j'ai mal écrit ça et que c'est pas correct. Par exemple, si je disais laborieuse, au lieu d'écrire O, j'écris AU. Et ça me fait penser que je vais échouer à cause de ça. J'ai peur qu'on me donne une mauvaise note et que mon père et ma mère ne m'offrent pas de cadeau et que ma mère va dire qu'elle va me frapper.
Ne pas réussir à la fin de l'année et faire la même classe.
Ah, redoubler, ça vous fait peur?
Oui, ça me fait peur.
Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars de ça?
Moi, mon rêve, c'était que j'avais oublié de faire mes devoirs et que on m'envoyait à la direction et que je sois expulsée de l'école.
Quand je vais à un examen, et les gens sortent et les gens ont déjà terminé. Et moi, je n'ai même pas encore commencé mon devoir.
Tu le fais souvent, ce cauchemar?
Oui, à l'approche des examens.
La peur, ça fait partie de la vie d'un enfant. Un enfant qui dit qu'il n'a pas peur, ça veut dire qu'il est en train de mentir.
Est-ce que vous pensez que quand vous deviendrez adulte, vous n'aurez plus peur?
Moi, je sais que quand je deviendrai adulte, j'aurai toujours peur des araignées. Tout le monde a peur de quelque chose, que ce soit les adultes, les grands-parents, nos aînés et nos petits frères et sœurs.
Moi, je crois qu'on a plus de peur que les adultes parce qu'eux, ils connaissent la vie plus que nous.
Et que ce qui va nous arriver, c'est déjà passé avec eux. La peur, c'est l'inconnu, quelque chose qu'on ne sait pas encore, quelque chose qui nous surprend. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver.
Le monde des enfants, signé Charlie Dupio. Un grand merci à Edwige Apedo, la directrice de Radio Jena, une radio associative de Lomé, qui nous a ouvert ses portes pour l'enregistrement de ce forum d'enfants qui sera d'ailleurs bientôt disponible en série de podcasts. Et merci bien sûr à Charlie Dupio. Et toute l'équipe qui était derrière ce micro avec moi, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles, sinon en totalité en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une émission sur les livres de cuisines africaines, une manière de transmettre, de partager la richesse, la diversité du patrimoine culinaire du continent. Comment faire connaître les plats les plus populaires du continent? Quelles sont les recettes authentiques? Ne manquez pas les astuces et les anecdotes de nos chefs. À demain.
Sept milliards de voisins, c'est fini.